Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous, je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire d'Emmanuel qui m'a écrit un mail intitulé, entre guillemets, « Daron de base ». J'ai d'abord trouvé ça étonnant, puis je me suis rendu compte en le lisant que les réflexions d'Emmanuel sur sa paternité n'étaient pas si basiques que ça. Un épisode où on parle énormément de masculinité, où Emmanuel raconte ses doutes suite à la naissance de son fils, ses questionnements sur sa capacité à endosser le rôle de ce fameux mâle alpha, sur qui sa douce pourra toujours se reposer. On parle aussi de la première année avec Elliot, leur premier fils, qui a eu du mal à faire ses nuits et leur a fait vivre des moments très compliqués à cause du manque de sommeil. Et on parle aussi des émotions qui en ont résulté, de la colère, de la culpabilité et encore de la colère et encore de la culpabilité. On discute aussi de comment il s'est sorti de ce cercle vicieux, de l'arrivée de leur deuxième fiston et de comment Emmanuel se porte aujourd'hui, 9 ans plus tard. Un très grand merci à lui, j'ai passé un super moment à discuter avec lui, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré, partagez cet épisode à quelqu'un que vous aimez et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma newsletter. J'adore pouvoir vous écrire régulièrement. Bien sûr, tout ça est gratuit, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Mais en attendant, voici notre discussion avec Emmanuel.
Bon, on est avec Emmanuel, salut Emmanuel.
Salut Fabrice.
Ça va ?
Ouais, ça va bien, je te remercie.
Emmanuel, tu m'as envoyé un mail, et je me permets de le préciser parce que c'est pas tout le temps le cas. D'accord. Intitulé Daron de base.
Ah oui, c'est vrai, ah, c'est juste.
C'était l'objet juste de ton mail. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce père qui m'écrit Daron de base? Déjà, pourquoi m'écrire ça comme ça?
Merde.
Et ouais. En fait, en lisant après ton mail, je me suis dit, mais il n'est pas du tout un daron de base, ce daron de base qui se dit daron de base. Il est bête ou quoi?
Ouais. Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que ouais, je me sens un peu con. Oui, bah oui, c'est. Ouais,
mais tu ne te sens pas con. Pourquoi tu ne te sens pas con? C'est intéressant en fait que tu te sois présenté comme daron de base. Pourquoi tu m'as écrit ça en fait en te disant daron de base?
Je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'à la fois j'ai la dévalorisation facile, ça c'est un gros défaut que j'ai sur lequel j'essaie de bosser, et un autre truc c'est j'avais quand même un peu dans la tête daron de base, enfin comme nous tous en fait, dans le sens où ouais on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a et ouais enfin on est basique quoi, on est des êtres humains avec deux bras, deux jambes, on est rien, enfin ouais. ou pas, oh là là, hein, faut pas que je parle sur des trucs comme ça, enfin. Un humain de base, et voilà, on est des êtres humains, on est tous à peu près pareillement constitués, et voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut.
Ouais, et en même temps, quand j'ai lu ton mail, t'es pas du tout dans des questionnements d'aron de base, hein, tu vois. On va en reparler un peu après, mais.
Ouais.
C'est un peu deep tout ce que tu racontes dans ton mail.
Et je me rends pas compte de comment ça peut être perçu à l'autre bout. Moi, j'ai toujours l'impression d'être le mec qui débarque. Tu sais, t'as un train à 11h45. Je prends le train de 11h45, mais 3 jours après. J'ai toujours l'impression de réaliser les trucs, mais j'ai l'impression d'être lent à assimiler et à réaliser les trucs. C'est-à-dire, je peux mettre le doigt dessus. Je dis, ok, ça cloche. Mais il me faut vachement plus de temps pour dire, ouais, mais ça cloche. Mais t'es pas obligé de faire comme ça, en fait.
Ok.
Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais.
Ouais. On va parler un petit peu de ta paternité. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter? T'as 37 ans, c'est ça?
Oui, j'ai 37 ans, ouais. Ouais. Me présenter, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ma compagne s'appelle Maud et mes enfants s'appellent Elliot et Bilal. Elliot est l'aîné, Bilal est le second.
Ok.
Et puis, quoi dire d'autre? J'allais encore dire que je suis un gars de base. Enfin ouais, j'ai un parcours professionnel où on me dit que c'est un peu atypique. J'ai pas mal eu de de grosses courbes dans ma vie professionnelle, mais des courbes à des fois 90 voire 180 degrés. Mmh. Et voilà, comment me présenter autrement, je sais pas. Okay. J'adore bricoler, j'aime bien la musique, j'aime bien j'aime bien la vie. Globalement, j'aime bien la vie, c'est cool.
Ok. Voilà. La première question que je pose souvent à mes darons, à mes invités dans l'histoire de darons, c'est comment t'es venu l'envie de faire des enfants?
Ah. Ouais, alors l'envie. Alors moi en fait c'est pas moi qui étais moteur, c'est Maud, donc Maud a quelques années plus que moi. Et elle m'a préparé un petit peu. On était ensemble depuis pas si longtemps, peut-être. Ouais, ça faisait 2-3 ans qu'on était ensemble, mais déjà elle m'avait un peu préparé en disant ah, moi les enfants, et puis l'horloge biologique, ce genre de truc. Bon, ok. Et c'est plus elle en fait qui m'a dit bah voilà, là moi j'aimerais bien qu'on se lance pour avoir un enfant. Et donc moi j'étais encore j'étais plutôt dans une période où c'était compliqué professionnellement, c'était compliqué même personnellement dans ma tête, justement ces problèmes de confiance en moi, enfin voilà, à me poser mais tellement de questions qui m'immobilisent plutôt que qui m'empêchent d'avancer. J'étais un peu dans ce schéma-là.
Qu'est-ce que tu te posais comme question par exemple?
Ah ouais. Alors pour remettre un peu dans le contexte, quand j'ai rencontré Maud, on habitait au bord de l'océan et à Nantes, et en fait moi j'ai toujours eu comme idée de vivre à la montagne, et donc j'en avais parlé, et un an après elle terminait ses études, elle a cherché un job, elle a trouvé dans une ville qu'on connaissait pas, on a regardé, il y avait les montagnes à côté, on a débarqué donc à Annecy. Ce faisant, on s'éloignait de nos parents, de nos amis qui, bizarrement, ont jugé opportun de tous se réunir à Nantes au moment où on se barrait. J'ai encore un peu de rancœur de ça, je suis encore un peu déçu de ça, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, on est arrivé dans la région au moment de la crise en 2008, et moi, je bossais qu'en intérim, mais je me suis retrouvé au chômage. Donc, en gros, j'amène celle avec qui je projette de faire ma vie à l'autre bout du monde, enfin, à l'autre bout du monde, n'importe quoi, à l'autre bout de la France. Je l'éloigne de ses parents, alors qu'il y avait un lien très très fort avec ses parents, et ça c'était assez clair. Et j'arrive, et en fait, bah, déjà d'office, financièrement, je me retrouve à la charge, à sa charge. Donc déjà, moralement, c'était assez dur. C'était assez dur parce que dans mon modèle à moi de cette époque-là, c'était le mec qui était censé être un peu le pilier, tu vois, normal, même si n'ayant pas les mêmes métiers. Donc moi j'étais maçon à l'époque, elle finissait ses études de médecin. Okay. Et donc je savais d'office que de toute façon elle allait gagner à terme beaucoup plus que moi, et que voilà, fallait déjà que je me le mette un peu dans la tête.
Et tu vivais comment ça, le fait qu'elle allait gagner plus que toi? Déjà, ça a été un frein dans votre relation d'une manière ou d'une autre?
Non, pas du tout.
Okay.
Non. C'était, par contre, je savais que c'était un verrou que j'aurais besoin de faire sauter. Et ça fait partie des trucs que j'ai mis du temps. J'ai essayé de le formuler tout à l'heure, c'était peut-être pas clair, mais là, ça peut peut-être mieux expliquer. Longtemps, je me suis dit, ah putain, ça, c'est un truc merdique. Je sais que ce rapport à l'argent, le gars qui doit ramener plus les sous, qui doit assurer la famille, je sentais que c'était un truc merdique. Mais ah, il m'a fallu vachement de temps pour dire, hey, mais mec, ce truc merdique, c'est une représentation, en fait. T'as pas besoin de correspondre à ça. Et il m'a fallu vachement de temps pour franchir juste ce petit pas de merde, alors que j'avais déjà fait le constat. Pardon, je parle un petit peu grossièrement, je suis désolé.
Oh, n'hésite pas.
Je parle un peu comme un chartier parfois.
Moi-même, je peux dire des gros mots. C'est pas.
Ok, ça marche.
T'inquiète pas, on n'est pas à la télévision.
Alors fais-toi plaisir, je me sentirai moins seul. Et donc, non, ça n'a pas posé de soucis dans le fait que je me projette avec elle. C'était,
ça devenait d'où? Ça devenait de ton modèle paternel?
Oui. Je suis issu d'une famille de d'agriculteurs, de viticulteurs, où le modèle, mon père a repris l'exploitation familiale et était quasiment complètement là-dedans. En fait, il faisait d'autres activités à la mairie, je sais pas quoi à côté. Bref, et donc c'est lui qui ramenait les sous, et ma mère bossait un peu à l'entreprise, mais s'occupait aussi beaucoup de nous. Donc voilà, j'ai grandi dans ce modèle-là, voilà. Okay. Et puis surtout, mes parents n'étaient pas hyper présents, donc je pense que j'ai aussi intégré beaucoup de schémas sociaux ou de représentations qu'on se fait, je sais pas, par les copains, par l'école, tout ce qui est véhiculé dans le contexte, quoi. Voilà.
Mais c'est hyper dur de se débarrasser de ces schémas à la con, comme tu dis, tu vois. Donc,
ouais. Ouais.
Et en fait, c'est.
Et
cool.
Je fais.
Vas-y, vas-y. Non, vas-y.
Je fais un petit lien promo vers ton. Ah, t'as un podcast. J'ai le titre qui vient de s'enfuir et qui m'a beaucoup aidé. C'est promo pour toi. Oui, vraiment, ouais.
Ah,
ouais,
trop
ouais.
Bien. The Boys Club.
Ah ouais, merci. Merci, c'est ça. The Boys Club. Très très intéressant.
Ça fait plaisir.
Ouais, c'est chouette.
J'en parlerai à Mimi parce que tu sais qu'en plus l'histoire veut que ce soit une meuf qui ait lancé ce podcast.
Oui,
avec. En fait, elle disait qu'elle attendait depuis des années que des mecs décident de s'emparer de ce sujet. Mais bien sûr, les mecs ils préfèrent dire. Nous, on préfère chasser le mammouth plutôt que de parler de
mammouth. Ouais, c'est vrai.
Et donc, forcément, c'est une meuf qui l'a lancé et c'est cool. Bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir que ça t'ait aidé, quoi.
Ah ouais, enfin, il y a tellement d'exemples super chouettes, super intéressants qui peuvent t'amener à mettre le doigt sur certains trucs pour soi. C'est chouette. C'est très, okay. Très chouette.
Bon, bah,
j'en suis
bien.
Au début, mais c'est pas mal. Franchement, je pense que quand j'arriverai au bout, je serai pas déçu. Enfin, je suis déjà pas déçu au bout de 5-6, donc ouais, c'est cool.
Donc ouais, pour revenir à ton histoire de papa, donc sous ton impulsion, vous partez à Annecy, c'est ça ? Et toi, tu te retrouves au chômage pendant le temps que Maud va subvenir à vos besoins, quoi, tu vois.
Ouais,
en échange, elle te dit... Mon gars, en échange de ça, t'as intérêt à être enceinte, c'est ça?
Non, ça s'est pas fait comme ça. Elle fonctionne pas au chantage dans ce sens-là. Ça aurait été assez bizarre comme relation, mais ouais, un peu fort comme
partir.
Relation. Ouais, fuis.
Attends.
C'est quoi ouais, fly you fools, non, c'est ça dans. Pardon pour l'accent. Dans le Seigneur des Anneaux, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, je revois l'image du coup avec la barbe du gars qui parle là en disant ça, là, quand il avant de tomber. Bref. Donc oui, donc on arrive et je me retrouve dépendant d'elle, quoi. Pas tant que ça au final, parce que j'ai retrouvé du job rapidement derrière. J'ai aussi eu, je sais pas pourquoi, la hantise du chômage. Mais pareil, un préjugé. J'avais la hantise du chômage. Je me sentais comme un, comment on appelle ça?
Système.
Ouais, enfin, ouais, voilà, exactement. Et j'avais cette espèce de spectre débile, tu profites. Alors que, et du coup, ça m'a toujours posé problème. Enfin bref, j'ai retrouvé du boulot assez rapidement derrière et au final, j'ai pas été dépendant. Au final, non. Mais voilà, c'était quand même pas très évident à vivre. Et donc, pour avancer un peu donc l'année suivante, on se marie. Et l'année suivante, encore, donc 2 ans après, elle me dit, écoute, moi, un enfant, ça me parle. Ça s'entrechoque à l'intérieur, au niveau du ventre. Là, j'ai bien envie. Et est-ce que toi, c'est OK? Et je lui ai dit, bah, ouais, OK. Un peu sidéré, un peu est-ce que je suis prêt, beaucoup de questions en fait, je suis déjà pas à la hauteur moi de ce que je pense devoir être, est-ce que je vais être à la hauteur de ça, et en même temps je me suis dit, bah écoute, voilà, elle te fait confiance, vas-y, arrête de te poser des questions, pif feu, quoi.
Alors spoiler alerte, on n'est jamais prêt, hein. C'est, enfin, je sais pas.
Ouais. ouais, je pense que quand même quelques mois de plus ça m'aurait peut-être été
tu crois?
Ouais franchement, ouais je pense.
Mais ouais, ça aurait changé quoi en quelques mois?
Ça me manquait plus de confiance en moi. C'est juste, je pense que c'est un élément qui était important. Si j'avais eu un peu plus de ressources à l'intérieur de moi-même, c'est mal formulé mon truc, elle est mal branlée ma phrase. Oh là là,
non, mais...
je ne veux pas rajouter un gros mot derrière là, j'ai pas
envie. On s'en fout, vas-y. Raconte comme tu as envie de raconter.
Ouais, ok, ça marche. Et bah du coup j'ai perdu le truc.
Tu disais que en fait quelques mois de plus t'aurais amené de la confiance en toi.
Ouais, quelques mois, 24, 36 mois par exemple.
Ah, c'est...
Non, mais c'est très. En fait, je partais de loin, quoi. Là, c'est. Mais vraiment, je pense que la confiance en soi, c'est important quand même d'être. D'avoir confiance dans sa capacité à rebondir, en tout cas pas avoir de l'assurance, pas se dire ouais c'est bon, on te nique les doigts dans le nez, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais avoir confiance en sa capacité à rebondir, et ça je l'avais pas assez je pense à l'époque. Et donc
mais qu'est-ce qui te Excuse-moi, je te coupe, mais ouais, qu'est-ce qui te manquait comme confiance? Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir aujourd'hui que tu n'avais pas à l'époque?
J'arrive à faire taire mes voix intérieures. J'arrive à faire ralentir les questions, ce brouhaha intérieur qui fait qu'à force de poser des questions, ça t'immobilise et t'es en panique, genre contre un mur et tu dis, ah, mon Dieu, je regarde par là, oh là là, ça vibre dans tous les sens, ça me fait peur, qu'est-ce que je fais? Ah, je regarde tout droit, c'est pareil, ah, je regarde à droite, tu vois, ce truc infernal dans ta tête avec la, c'est un peu le stéréotype de la voix, le petit ange, le petit démon qui te saoule et qui ferme jamais leur bouche, quoi. Et du coup, c'est épuisant et pendant ce temps-là, tu fais rien, en fait. Et tant que tu fais pas, tu peux pas savoir si t'es à la hauteur des choses, tout simplement. Et cette espèce d'inhibition qui fait que...
Comment t'as fait pour faire taire cette petite voix?
C'est un peu de hasard, un peu de volonté, un peu de mes erreurs. En faisant, en fait, bon, après, je suis du genre à beaucoup m'en faire, mais une fois que je suis dos au mur, je sais que je fais les pas en avant. Je suis pas quelqu'un qui recule. Bon, de toute façon, on peut pas reculer, tu me diras. On peut que avancer ou partir sur le côté, mais ouais, tôt ou tard, je sais que je m'asserre, je suis un peu lent peut-être à assimiler les choses, mais tôt ou tard, j'y vais. Quand j'y vais vraiment. Et puis bah des fois j'y vais vraiment et je me rate. Et du coup, bah quand tu te rates, tu dis ah bah ouais, là ça c'était pas fou là. C'est quoi le truc qui a pas marché ou qui a pas marché à hauteur de ce que je voulais, et puis bah voilà, tu t'apprends quoi, simplement t'apprends.
Ok.
Je dirais ça. Ouais.
Donc t'as.
Il y a un truc que je voulais dire, c'est que ma femme étant persuadée d'être stérile pour je ne sais quelle obscure raison dans le domaine médical, j'ai l'impression que c'est une marotte ça, quand ils connaissent un peu la complexité de la création d'un enfant, tout ça, je pense qu'ils sont plus au fait aussi des risques et des choses qui peuvent arriver. Et en tout cas, donc Maud avait une tendance à croire qu'elle était très probablement stérile. Et je m'étais dit, c'est horrible hein, ce que je veux dire, peut-être, mais je m'étais dit, ouais, cool, ça va me laisser un peu le temps d'endosser un peu les vêtements de papa, de faire mon chemin, l'idée de tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Je sais exactement quand mon enfant a été conçu, je m'en rappelle tout à fait, voilà, ça s'est
Alors,
passé.
Attends, ça veut dire que ta femme, qui est tout bib, était convaincue qu'elle était stérile, elle avait pas fait des tests de ce fait-là, c'est
non,
ça
non. Non, c'est une croyance, c'est une pure croyance. Et tu sais, la parole du médecin, la parole du médecin, quoi.
Et donc, en fait, elle prenait pas de contraception, c'est ça, j'imagine?
Si elle prenait la contraception et puis elle arrête. Ou c'était des préservatifs à l'époque. Bon, c'est pas très important. Je sais plus quel était le mode de contraception, mais on a arrêté la contraception et ça s'est fait d'office quoi. Ça s'est concrétisé très vite en fait.
T'as mis dans ton mail, ça s'est fait du premier coup. Entre parenthèses, jeu de mots involontaire.
C'est moi, je vais ressortir ça.
Jerry, désolé Jerry. Alors je permets de le partager.
Ok. Quand j'ai écrit le truc, je me suis dit, mais t'es sérieux? Et puis, du coup, tu sais, c'est le genre de truc où, en plus, tu reviens bêtement, tu sais, t'effaces. Puis tu dis, ouais, mais bon, j'efface, est-ce que je me censure? Est-ce que c'est de quoi j'ai l'air débile? Et puis, je l'ai réécrit, j'ai mis entre parenthèses, bon, le jeu de mots est involontaire, autant assumer. Et ouais. J'aurais aimé l'avoir fait volontairement, en fait, peut-être presque.
Elle est très bien.
Merci.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête le jour où tu apprends que tu vas être papa alors?
C'est assez perturbant parce que Maud, donc, je sais pas qu'elle fait un test. Elle est dans la salle de bain, puis elle me demande de venir, je sais pas ce que je fais. Et j'arrive, elle a un test hein, dans la main. Moi, lent du cerveau, je percute pas. Je percute pas du tout. Je me dis, ok, elle a un truc dans la main, c'est cool. Pourquoi elle est toute, tu vois, elle a l'air très heureuse avec ce truc dans la main. Je fais pas gaffe en plus, je suis pas très observateur. Je sais pas si une brosse à dents ou je sais pas quoi. J'en sais foutre rien.
Une brosse à dents.
J'ai pas trop fait attention. Puis elle me dit, tu vas être papa. Et là, Et dans ma tête, c'est fichu voix qui disent, waouh, alors t'es content. Et une autre voix qui dit, je suis content, mais attends, mais ça devait pas prendre un petit peu de temps, ça devait pas. Et puis une troisième voix, mais est-ce que c'est normal de pas être content comme ça, de pas être spontané, de te poser 20 000 questions? Oh là là, l'enfer. Et du coup, j'étais content, j'étais en même temps, tu sais, un peu en suspension, un peu, waouh, qu'est-ce que c'est, tu réalises pas en plus, tu réalises pas d'ailleurs concrètement. Tu vas être papa, ouais, ok. T'as un bout de machin en plastique dans la main, on va être papa, ok. Je réalise pas vraiment, et en même temps, c'est un mélange de joie, dire ok, ça va se concrétiser là. Waouh! Ouais, ça va se concrétiser. Il y a vraiment ce waouh! Avec tout ce qu'il y a dans le waouh, quoi.
Ouais.
Et ouais.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, donc du coup, c'est plus les échographies qui font réaliser. La première, pas vraiment, je crois, de mémoire. Tu vois pas le fœtus en entier, je crois, la première échographie de mémoire. Et c'est la deuxième échographie où là, tu vois le fœtus. Je sais plus si c'est à celle-là ou pas, où le gars avait zoomé sur le cœur. Et là, c'est quand même impressionnant. Là, t'es quand même face à du concret. T'as l'image sur un écran, tu regardes le ventre, tu regardes l'image, tu regardes le ventre, tu regardes l'image, tu dis bon, il y a un lien, de toute façon, clairement. C'est dedans. L'écran n'est pas dedans, mais l'image de l'écran est dedans. Donc t'as tout ce discours dans ta tête qui brouille dans tous les sens, et voilà. Et ça a été plus un marqueur. L'échographie était plus un marqueur pour moi. Et après, il y a un truc quand même qui était, je pense, peut-être un peu dommage, c'est que Maud étant médecin, moi derrière j'étais en roue libre. Enfin, je veux dire, ouais, non, c'est pas vraiment l'expression qui est adéquate.
Tu te reposais sur elle, peut-être, c'est ça?
Mais ouais, mais même pas même involontairement, parce qu'en fait, tu vas au rendez-vous avec les médecins, tu vois, ils discutent, machin, puis ils disent « Ah, mais vous êtes médecin !» Et ils commencent à partir avec des mots qui font plus de 4 syllabes, des trucs que tu piges rien. Toi, t'es là. Tu sais, t'as l'impression d'être d'être genre, tu vois, deux potes avec une meuf, et tu sens très bien que c'est ton pote qui crush et pas toi. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, tu te retrouves en roue de secours, et tu dis bon, qu'est-ce que je fais là? Je sors mon portable, je fais un truc. Ouais, j'ai des images des fois qui sont pas très adéquates, mais c'est comme ça.
Ça marche très bien.
Merci.
Ça vient tout de suite.
Tant mieux. Parfait. Et du coup, ça a été quand même un petit peu dommage, parce que je me suis reposé sur elle par défaut, parce que en fait, systématiquement dans les conversations, ils se mettent à parler professionnel à professionnel, et malheureusement, non pas que ça m'intéresse pas, mais je vais pas m'amuser à apprendre du vocabulaire de médical pour piger ce qui se passe. Et voilà, donc Maud grosso modo, je suis pas débile, hein, je comprenais de quoi ça tramait, mais ça partait des fois sur des trucs un peu trop, ouais. Pas abordable pour un papa de base.
Ouais. Un daron de base. Voilà. Comme tu
exactement. Exactement.
Et tu lui dis pas à ce moment-là, à Maud, que tu te sens un peu laissé sur le bord de la route quand elle commence à parler, ou elle, tu vois, de lui demander par exemple de te traduire ou un truc comme ça?
Je crois qu'on en a parlé, mais c'était ok pour moi. Je me souviens que c'était ok pour moi. Ok. Je comprends grosso modo la trame. J'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Je sais qu'il va bien, je sais qu'il y a telle épaisseur de telle membrane qui fait qu'il faudra que ça soit surveillé, je sais pas quoi. Voilà, je pige dans les grandes lignes, j'ai pas besoin de m'encombrer avec les détails. J'ai déjà mon perso à moi, avec mes problèmes vis-à-vis de ma confiance en moi à gérer. On va pas surcharger le truc avec des détails inutiles, quoi. C'est un peu comme ça que je le vis.
Ok. Comment se passe le reste de la grossesse, justement, par rapport à ton appréhension, à ton image de toi en train de devenir père, etc.
J'ai pas mal de trucs qui me viennent à l'esprit, et du coup, je sais pas par quel commencer. Tu veux bien répéter ta question? Parce que je crois que du coup,
non,
j'ai
vas-y,
perdu le...
prends le premier truc qui te vient à l'esprit.
Je vois un peu en fait une descente en fait. Quand pendant la grossesse de Maud, on venait d'acheter une maison, il s'est avéré qu'elle était en mauvais état. Donc déjà tu vois pour l'ego quand t'es maçon, que t'achètes une baraque et qu'il s'avère que c'est pas fou, que en gros c'est un peu du cache misère, et tu dis ben ouais j'aurais peut-être pu regarder un peu plus dans le détail. Il y a ça, on avait des problèmes, des trucs très très basiques, très 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 bêtes, des voitures qui tombent en panne avec des factures assez élevées, des trucs où tu te dis waouh, ok, beaucoup de frais qui partent quand t'achètes une maison, en fait aussi pareil, il y a des trucs bêtes. La banque te dit t'as pas besoin d'avoir de côté, sauf que t'as des faux frais dans tous les sens et que ça part à coup de billets de 5 000 ou 10 000. Et il y a un moment, t'es content de les avoir déjà parce que mine de rien, ça tombe pas comme ça. Et en même temps, tu flippes, tu te dis, mais attends, elle est où, quand est-ce que ça s'arrête? C'est quand que le bonhomme qui débarque de je sais pas où, qui me dit, ah, au fait, il y a ça comme frais aussi, c'est 2 500. Ah ouais. À la fin, ouais, ça, et du coup, il y avait un peu ça. Il y avait aussi, la première grossesse de Maud s'est vachement bien passée dans le sens où physiquement on aime beaucoup sortir, on a fait beaucoup de montagnes, on a continué à beaucoup marcher et ça c'était super cool. Après elle avait un peu de complexe sur son physique. Je pense qu'elle avait un peu cette image de la femme idéale qui est enceinte, grossit seulement du ventre et par exemple pas du cul, pas des hanches, pas de la bouille, etc. Et ce point-là était plus compliqué, je crois, pour elle à gérer. J'ai essayé d'être là le plus possible pour, enfin voilà, pour dire ouais et alors en fait, on s'en tape. Moi, je t'aime comme t'es, voilà. Et puis accessoirement, on risque de vieillir ensemble si ça dure. Et comme c'est le projet, ça serait quand même pas mal. Et logiquement, on devrait prendre des rides. Logiquement, on devrait devenir un peu tout pourri. Oh pardon. Je suis désolé. On devrait devenir de moins en moins, voilà quoi.
Tu sais, il y a Ben Mazu, il a une chanson qui s'appelle Fané à tes côtés, tu vois.
Oh Ben Mazu, c'est l'ancien Toubib qui s'est mis à faire de la musique.
Ah yes. Ouais.
Je le déteste. Il faut qu'il sache que je le déteste. Ma femme l'adore parce qu'il est médecin et qu'en plus il s'est reconverti dans la musique et qu'il est bon. Et en plus, même moi, j'aime bien. J'arrive même pas à admettre que j'aime bien ses chansons. Tellement, mais il m'agace.
Alors là, je vous fais une petite aparté. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Ben Mazuet, je vous mets dans les notes de cet épisode un lien direct vers une interview qu'on a fait ensemble où il raconte sa vie, sa carrière, son œuvre. C'est dans mon autre podcast qui s'appelle Histoire de succès. Un grand merci.
Bon, bah, écoute, voilà, il disait, il y a une chanson où il dit, je serais, alors attends, j'ai plus la parole exacte, mais en gros, c'est, je serais heureux d'avoir à côté de moi une femme qui fane à mon bras, tu vois.
Ah, c'est voilà. Beau, c'est joli.
Ça marche bien, je trouve, pour tu vois, plutôt que de dire on va pourrir ensemble.
J'ai pas dit ça, je crois pas avoir dit ça. Je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai pas dit on va pourrir.
On va devenir tout pourri, t'as dit.
Ah, on va devenir tout pourri. Je trouve ça un peu moins
c'est
violent.
Marrant,
mais...
C'est marrant, on va devenir tout pourri. C'est très drôle.
Ouais, enfin, ouais, bon. Ah, c'est joli en tout cas. C'est joli.
Ah, ouais, bah,
il m'agace encore plus.
Bah oui, je sais, je me doute bien.
Ah là là. Ouais, c'est bien trouvé. C'est une très belle formulation. Ouais.
Bah, je lui dirais d'écouter cet épisode alors qu'il y a une dédicace pour lui.
Ah, le pauvre. Non, c'est très chouette. C'est très chouette. Je fais pas de la lèche, hein, je m'en fiche, je m'en tape complet, mais c'est chouette. Ouais. Je connais pas beaucoup, mais c'est chouette. Ce qu'il fait, ce qu'il écrit.
Ouais, donc ta femme a des petits problèmes de confiance en elle, c'est ça, de...
Ouais.
Et toi aussi, de ce fait-là.
Oui, bah moi j'ai deux bases. Moi de base déjà j'ai un problème de confiance en moi à gérer, et en plus faut que je le mette de côté pour la rassurer. Donc je fais mon possible en gros pour la rassurer. Moi tout ce que je veux, tout ce que j'aimerais, c'est qu'elle se voit comme moi je la vois. Mais je peux pas le faire à sa place. Moi, je l'aime comme elle est. J'ai juste envie qu'elle s'aime comme elle est. Enfin, pour moi, c'est simple et moins pour elle. Mais ben, enfin, voilà, je fais mon possible pour être là de ce point de vue-là. Mais voilà, c'est pas non plus. Enfin, ça arrive à des moments. Et puis, si, il y a un truc aussi, c'est que juste, elle est médecin urgentiste. Elle se tape des putains de gardes de 24 heures. Elle s'est arrêtée très tard. Et quand tu sors de 24 heures de garde, que t'en enchaînes le lendemain, que c'est comme ça toute ta semaine, que t'es à 100%. On va y venir après parce que le manque de sommeil, la fatigue, mais c'est tellement dur à gérer et il y a ça aussi, donc surtout les sorties de, je pense c'est aussi lié à ça, les moments de fatigue, il y a des coups de mou et puis du coup t'as tes petites questions qui sont un peu là, tu sais, je sais pas, un peu sous-jacentes et qui remontent plus facilement quand t'es fatigué, quoi.
Okay.
Donc ouais.
Et tu disais dans ton mail que tu avais l'impression d'être un boulet pour ta compagne et d'être en déroute totale par rapport à l'image du mâle alpha type à laquelle je pensais devoir correspondre pour être à la hauteur.
T'étais vraiment obligé de citer cette phrase?
Non, mais en fait, je trouve que c'est hyper intéressant que tu me l'aies écrit comme ça. Pourquoi on le cacherait aux gens à qui on est en train de raconter ton histoire, tu vois?
Ouais,
parce que,
vrai.
En fait, pour moi, c'est un peu c'est un peu comment dire, le truc qui t'anime ou qui t'a fait galérer là, tu vois, depuis
ouais.
ce que t'es
ouais,
en train
clairement.
De raconter depuis les débuts. Et
oui,
en fait, tant qu'à faire, autant le nommer, c'est cool, tu vois.
Ouais. ben faisons-le. Ouais. La phrase, je crois qu'elle résume bien le truc, c'est que j'ai l'impression de pas être l'homme qu'il faudrait, quoi. J'ai l'impression qu'elle se fait chier avec un mec qui est en train de ramer à côté, qui au lieu d'être là et d'être un espèce de roc en béton en disant là ça va aller, en tapant chier avec une voix grave sur l'épaule, sur le côté, et que en fait quand elle a besoin, elle est face à un mari qui est la tête entre ses mains, à se poser 20 000 questions, à pas arriver à faire le tri entre toutes ces questions, à être complètement paralysé avec ces histoires de boulot où ça va pas, de putain cette maison c'est pas un taudis, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais, enfin. Et putain, en plus je me pose ces questions et du coup je suis pas ce rock, tu vois, se rajoutent ces questions là en fait. Je culpabilise aussi de mon attitude, du coup. Je culpabilise pour ce que je ne suis pas et que j'imagine devoir être. Donc, ce gars qui a de l'assurance, qui, c'est bon, le compte en banque, t'inquiète. Je ramène tout, le compte en banque est plein, tout va bien. Là.
T'as un peu
de manque de confiance en toi. Là, viens sur mon épaule droite maintenant. Là, tout va bien. Et je suis pas en capacité de le faire en fait.
Les gens le voient pas, mais là à la webcam, t'as vraiment eu le sourcil haussé, quoi, tu vois. Écoute, bébé.
Mais oui, mais c'est ça.
C'est qui ton ou tes modèles de mâle alpha justement? J'imagine que ils viennent d'où? C'est ton père? C'est des acteurs? C'est qui?
Oh là là. Bah ouais, c'est. Enfin, c'est dur. C'est pas. À l'époque, je sais pas. Si je prends les gars que je côtoyais à l'époque à mon boulot, je bosse sur des chantiers. Je bosse avec des mecs qui, grosso modo, ont un peu la mentalité. Je fais mon trou. Je fais mon trou. Pas de bienveillance, pas d'entraide, pas de, tu vois, un peu chacun sa merde. Moi, j'ai fait mon trou, tu vas te démerder pour faire le tien, bon an, mal an, si tu n'y arrives pas, bah, tu iras babouler ailleurs, tu iras faire ton taf ailleurs, tu, voilà. Et dans une culture hyper viriliste, comme en maçonnerie, j'ai beaucoup été confronté à, je te le disais tout à l'heure, si tu forces pas ou que tu te fais pas mal pour travailler, t'es pas un homme. Et du coup, je me retrouve au milieu de ces mecs-là qui correspondent à toutes ces images de l'homme viril de base. Et quand je dis homme viril de base, c'est oui, le gars qui est fort, qui est costaud, qui est dur à la douleur, que s'il souffre, c'est pas grave. J'ai pas vraiment d'images qui me viennent du paternel parce que mon père est pas beaucoup présent quand je suis jeune. Et en fait, de ce fait, il correspond complètement à l'image que je me fais aussi ou que véhicule la société sur le paternel. C'est-à-dire qu'il est absent, il ramène à manger, il est pas là beaucoup. Du coup, comme il parle pas beaucoup, on a tendance à le respecter, à l'écouter, parce que quand t'as une maman qui passe sa journée avec toi et que t'as deux franges en plus et que y a un moment ça déborde, c'est elle qui gère et elle fait. Enfin, tu vois, tu te retrouves dans un schéma qui conforte en fait ce que te véhicule la société. Et ça marche dans les deux sens, la poule et l'œuf, l'œuf et la poule. Et en même temps, un truc intéressant, que je trouve aussi pas très bien, c'est que les mecs qui avaient une réflexion sur le travail physique dans la maçonnerie avaient beaucoup cette phrase « Non, mais il faut travailler feignant ». une phrase qui m'a toujours beaucoup gêné, et j'ai compris il y a 2-3 ans pourquoi, c'est que putain, c'est hyper dévalorisant travailler feignant. Tu travailles pas feignant, tu travailles intelligemment. C'est ça la nuance en fait. Elle est juste là la nuance. T'as pas à te péter le dos pour porter des charges toute une journée parce que t'as un salaire ou non. Non, il y a rien qui justifie ça. Tu fais ton travail intelligemment, tu préserves ton corps parce que derrière ta journée, il y en aura une deuxième, après il y en aura une troisième, et si jamais tu bosses dans ce boulot-là toute ta vie, ben mec, il va falloir que tu sauvegardes un peu ton physique parce que sinon tu t'arriveras pas au bout, quoi. Du coup, j'avais vraiment ces deux visions-là au niveau représentation de l'homme, quoi. Masculinité, ouais, ouais, ouais. Et puis avec des collègues pareils qui avaient des pipas. Et puis il y a aussi moi j'avais des collègues de boulot qui étaient je sais pas, immigrés portugais, immigrés kosovars, des mecs qui avaient eu des vies mais franchement de merde. Et qu'est-ce que tu vas te ramener toi en tant que, même moi qui suis fils d'une famille ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit fille. Peut-être parce que mes parents voulaient une fille au départ, c'est possible. Je te vois te marrer, ça me déstabilise.
On va faire un épisode du Boys Club, toi et moi, tu vas voir, ça va pas tarder.
Voilà, là, ça mixe déjà peut-être un peu.
Ça mixe pas mal, ouais.
Oh là là, j'ai perdu. Ouais, ces mecs-là avaient eu des vies de merde, franchement. Et moi, autant j'ai une vie assez simple, mais mes parents m'ont toujours apporté à bouffer, j'ai toujours eu un toit, ils m'ont donné la possibilité de faire des études alors que c'était pas forcément facile pour eux. Bon, j'ai bossé à côté pour pouvoir faire ces études parce que de toute façon ils seraient pas arrivés tout seuls, mais j'ai quand même une vie assez facile si je me compare à des gens qui ont une vie plus difficile. Je dis pas que moi je l'ai vécu facilement parce que bah moi mes critères c'était ceux que j'étais en train de vivre, donc ce qui était difficile pour moi était légitimement difficile. Mais quand tu te retrouves face à des mecs qui ont vécu la guerre, dont les parents sont venus dans des pays pour fuir ça, que déjà ils s'ouvrent assez pour t'en parler, enfin t'es malvenu de ramener ton truc en disant oh, je me pose des questions sur mon orientation professionnelle, je sais pas quoi faire, toutes ces questions dans ma tête, ben c'est difficile à ramener ça,
c'est ouais, difficile à ramener ça. Et en même temps elles sont légitimes tes questions, tu vois.
Ouais, mais j'avais pas de collègues masculins avec qui pouvoir échanger là-dessus. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai quitté la maçonnerie au bout d'un moment. Je pense pas que c'est tant le boulot qui me déplaisait, même si physiquement je suis fabriqué comme un cordon de chargeur de portable, donc j'aurais peut-être pas tenu très longtemps. Mais j'avais pas ces personnes qui pouvaient m'apporter une réflexion et avec qui on pouvait vraiment discuter plus avant là-dessus, quoi, ouvertement. Et encore que, parce que déjà, ce que certains ont, enfin, je pense surtout à un collègue qui m'avait raconté sa vie. Franchement, ouais, je suis à des kilomètres de ça, quoi. Enfin, vivre la guerre, c'est franchement, en tant que gamin, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ouais. J'ai foiré ta question, je sais plus.
Non, mais arrête.
Ouais, c'est vrai, excuse-moi.
Si t'as foiré ta question, je te le dirai, en fait. Ah non, tu réponds pas à ma question. Mais là, en fait, tu réponds très bien à la question. Ma question de base qui était autour de ta représentation du mal alpha. Donc, tu vois, t'as très bien répondu. Mais bon, merci en tout cas pour ce partage parce que je trouve que c'est vraiment très précieux. Effectivement, on dévie un peu du sujet de la paternité, ouais. Mais je pense que l'air de rien, chez toi, en tout cas, ça m'a l'air d'être très lié, quoi.
Ouais, ouais, c'est lié. Ouais.
Comment se passe l'accouchement ?
Ah, comment se passe l'accouchement ? Ouais. Ah, il se passe super bien.
Ouais.
L'accouchement, c'est
pour toi, en tout cas.
Bien. Ouais, c'est vrai. Pour moi, bah forcément. Pour moi, ouais. Non, je suis pas. Oui. Il se passe bien. Je suis pas stressé particulièrement. En fait, c'est juste un soir où je vais pour me coucher. D'ailleurs, à cette époque-là, j'ai posé madame à mon boulot. En gros, je sais que mon fils va naître à la fin du mois, il naît courant mars, et je sais qu'à la fin du mois, je ne bosse plus à ce boulot. Je sais pas ce que je vais faire derrière, j'ai juste posé madame parce que j'en pouvais plus, que c'était en train de me bouffer de l'intérieur. Et c'est déjà une première libération. Même si je ne sais pas et que j'ai un peu la peur de l'après, c'est quand même déjà une première libération. Je pense que c'est déjà un bon pas. Et donc, tout va bien. Je sais que ce boulot va se terminer à la fin du mois. Le soir, je me prépare tranquille. Je suis assez zen. Je fous mon pyjama, je vais me coucher, quoi. Et ma femme, Maud, est en train de prendre une douche. Et puis elle sort et puis elle me dit, écoute, je pense que tu peux te rhabiller. Et voilà, bon, je percute pas normal, comme pour le test de grossesse. Et je dis bah pourquoi? Et elle me dit bah j'ai perdu les os en fait. Ah ok. Bon. Donc et tu vois gros blanc quoi dans ma tête le, comme dans les machins là de les séries là des urgences l'électro ouais. L'électroencéphalogramme plat t'entends ouais. Juste dans tes oreilles hein, tu et ton cerveau au moment il dit c'est peut-être un la cette note et il y a une autre partie qui dit oh faudrait peut-être reconnecter mec là il serait temps de t'agiter un peu. Et donc bah ça se fait gentiment quoi, on avait déjà préparé les affaires, les trucs et puis on part en voiture, je sais pas, c'est un soir et puis on part à l'hôpital. Et Maud a ses contractions mais ça se passe bien. Elle est dure à la douleur hein, pour le coup Maud est dure à la douleur. Et donc on arrive à l'hôpital, tout a l'air de bien se présenter. Elle va accoucher sans péridurale parce que Maud ne peut pas accoucher avec une péridurale pour des questions de santé, elle peut pas. Et donc depuis le départ, c'est pas une surprise. Hein. Elle sait dès le départ que de toute façon son accouchement sera sans péridurale. Et donc on arrive, tout est calme, il y a personne, c'est super bien, l'hôpital est quasi désert. On a les aides-soignantes sont hyper top et vachement bienveillante et aussi ouverte à autre chose dans le sens où c'est pas très extraordinaire mais Maud voulait accoucher sur le côté, elle avait déjà demandé à des choses qui sortaient un petit peu pas tant que ça mais un petit peu du cadre habituel et du coup elles étaient vachement contentes parce que déjà elles avaient le temps et elles nous ont emmené tout un tas de trucs là, les ballons, les machins pour pouvoir se supporter, enfin tout un tas de bordel, je sais même pas comment elles sont arrivées à faire entrer ça dans la pièce. Et donc Maud tournait entre son ballon, son machin à suspendre, moi des fois, enfin elle changeait de position régulièrement parce que bon c'était quand même pas rien hein, faut moi je suis là mais en gros je sers de poteau pour qu'elle puisse s'appuyer quand elle a envie de changer de position mais concrètement je sers à que dalle.
Poteau.
Ah mais vraiment, mais c'est carrément ça. Tu sais les gens qui font les étirements contre le mur là après avoir couru, mais c'est carrément ça. Je me sentais comme un mur quoi. Je me suis dit bon. Je
ton
suis
titre,
un mur.
Ton titre d'épisode ce sera Emmanuel Papa Poteau.
Oui. Bah écoute, en c'est tout faux. Cas c'est comme
c'est
ça.
Sympa, c'est marrant l'image.
C'est comme ça que je me ressens ouais. Sur le moment. Bah, ouais, bah tu sers pas grand chose. Hein. Et en fait, donc je sais plus, ça avance quoi, ça passe, je sais pas si ça passe vite, je m'en rappelle pas trop, mais dans mes souvenirs c'est assez fluide, hein, ça s'écoule peut-être une heure ou je sais pas, et on passe en salle d'accouchement. Moi je suis un peu flippé parce que je suis vagal, et du coup je me dis, est-ce que je vais tenir le choc pendant l'accouchement? C'est aussi, je suis vagal aussi, donc c'est pas forcément très masculin dans la représentation que j'ai à l'époque aussi de la masculinité.
Ouais, moi aussi je suis vagal, t'inquiète.
Ah! Tu sais ce que j'ai dit la fois où j'ai appris ça? En fait, j'ai fait un malaise chez un copain qui avait un balcon et heureusement qu'il était là d'ailleurs parce que sinon il y a des grandes chances que j'aurais calanché par-dessus. Et en fait, il m'a plaqué contre le balcon, il m'a fait descendre par terre, il me ramène dans le salon. Et je crois que sa mère est arrivée. J'ai un vague souvenir de ça, de sa mère qui arrive, qui dit ça va et tout. Il dit ouais, il a fait un malaise et elle me regarde, elle fait t'as fait un malaise vagal. Et je dis mais j'ai pas de vagin. Elle explose de rire. Et du coup, je comprends que déjà ça a aucun rapport. Et elle m'explique en gros ce qu'est le nerf vagal, etc. Et du coup, ce qui m'est arrivé, parce que je ne pige pas du tout ce qui s'est passé. Donc j'ai ça. Ouais, je sais que je suis vagal et je sais qu'il va peut-être falloir que je le gère. Donc on est en salle d'accouchement. Ça se passe franchement hyper bien. Un truc qui est vachement important, on en a pas mal parlé si on le compare par rapport au deuxième accouchement, la sage-femme décrivait beaucoup à Maud ce qui était en train de se passer et c'était très important pour elle parce que comme font quand même les femmes un effort assez considérable quand elles accouchent, c'est bien de savoir où elles en sont. Ça n'a pas été le cas au deuxième accouchement et ça a beaucoup perturbé Maud. La sage-femme lui disait ouais c'est bon ça vient, enfin ça, pas ça vient mais ça avance, enfin je sais plus ce qu'elle utilisait comme terme, mais du coup Maud était en train de forcer sans savoir ce qui se passait et elle savait pas si elle était vers la fin, vers le début et moralement c'était assez dur. Et le premier donc du coup était très accompagné, elle décrivait bah voilà, on voit le crâne, voilà, on voit ah tac, on voit l'oreille, ah il y a l'épaule ou je sais pas quoi, enfin bref, c'était assez fluide. Okay. Et Maud hurlait elle criait assez fort quand même dans la dans la maternité, c'est quand même assez impressionnant, un cri de femme, enfin un cri libéré en fait, un cri vraiment un vrai cri, c'est assez impressionnant. Et elle s'excusait. Elle s'excusait en même temps qu'elle accouchait. Elle était là, excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi. Et après il y a une autre contraction et elle bloquait et elle poussait. Je suis désolé. Elle s'excusait en accouchant quoi. Enfin le truc surréaliste. Enfin moi
L'imitation
m'a beaucoup marqué.
Est parfaite, vraiment.
Ouais, j'ose pas crier pour pas faire briller le machin,
t'inquiète,
le micro.
T'inquiète.
Et c'était de drôle. Franchement, il y avait, je rigolais pas, mais il y avait quand même un petit morceau dans ma tête qui me disait, non mais sans déconner, tu vas pas t'excuser d'accoucher, mais c'est quoi ce délire? Enfin, c'était très très marrant.
Comment tu te sens toi pendant ce moment-là où effectivement t'as cette sensation? Et je pense que c'est, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, c'est vraiment le moment où je me suis dit, ok, vraiment, dans la survie de l'espèce humaine, je sers à rien aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, je peux passer sous un bus là, en allant chercher, en traversant la rue, je sers à rien. Et toi, avec déjà ton complexe et ton truc, comment tu te sens à ce moment-là, quoi?
Je n'ai pas ce recul-là, en fait. Moi, okay. De toute façon, pour moi, je ne sers à rien depuis le départ, vu que je ne suis pas à la hauteur. Donc, que ça soit maintenant, ouais, c'est bon, ça fait 9 mois que ça dure, on n'est plus à ça près.
Oh là là.
C'est pas fou. Non, j'exagère un peu. En fait, je réalise... Ouais. Non, mais je me suis vachement amélioré, attention. Je suis plus comme ça. Enfin, je suis plus comme ça. J'arrive à écouter, à dire « Ok ». Et je fais ma vie. Mais moi, je le vis... en fait, je vis le moment. J'ai même pas vraiment tant le temps de réfléchir que ça. Okay. Et du coup, en fait, Elliot naît, ça va très vite. La sage-femme se tourne vers moi et me tend le bébé. Genre, vous voulez couper le, le cordon? Et je me dis... Et en fait, elle me tend le ciseau, je prends le ciseau, je coupe le cordon, je prends mon fils, et en fait, c'est juste hyper fluide. Il y a aucun moment j'ai de problème avec le sang, avec quoi que ce soit. Ça fait partie des moments qui m'ont fait réaliser que de toute façon, dans l'action, je suis là, quoi. Et c'est cool. Ouais, carrément, ouais. C'est un premier truc, tu vois, truc positif. Je me sens bien, il est là, c'est cool. Ouais, c'est chouette. C'est impressionnant en même temps. Pendant 9 mois, t'as quand même quelque chose qui grossit dans le ventre de ta femme. Toi, tu vois quoi? Tu vois ce que tu penses être un pied qui fait bouger le ventre. Tu vois, t'as pas vraiment d'interaction avec. Et puis, j'étais pas trop à tripoter le ventre de Maud. C'était pas mon truc. C'est son ventre, c'est son corps et c'était pas. Moi, je regardais, je trouvais ça fascinant, revoir les pieds qui passent là, qui tournent, qui cette espèce de bosse qui bouge là sur le vent, c'est incroyable. Et là, tout d'un coup, c'est concret et waouh, ouais, blackout quoi, plus rien. Un pote m'avait dit d'ailleurs, tu verras, il faudra peut-être 9 mois, il faudra peut-être te faire ta grossesse quand il sera là. Les femmes ont 9 mois pour faire la grossesse, donc il y a la présence, elles s'habituent tout ça. Et je sais pas si c'est un truc qu'il avait entendu ou qu'il avait vécu, mais il m'avait dit, je crois, moi il m'a fallu à peu près le temps d'une grossesse pour me sentir vraiment, papa, mais tu vois, pour que ça soit plus que
il pour est réaliser. Là, pour
que ça, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ça a peut-être été un peu mon cas.
Comment ça s'est passé justement les débuts avec Elliot à 3?
Alors les débuts avec Elliot, là on va rentrer dans un épisode qui est pas les débuts sont durs, les débuts sont vraiment durs. Il y a un truc qui est chouette, c'est que j'ai quitté mon boulot, donc je suis dispo, je crois que je sais plus, je suis au chômage 2-3 mois en fait, je retrouve un boulot assez facilement derrière. Mais les débuts sont assez durs parce qu'on se pose vachement de questions, on se pose trop de questions en fait. On veut tout faire bien, on se pose trop de questions, on a cette espèce de mot d'allaite, fait le choix d'allaiter. À l'époque, c'était pas mal perçu, mais c'était pas particulièrement bien perçu non plus. C'était un peu, vous allaitez, mais pourquoi vous faites chier quoi? Genre l'allaitement c'est pas pratique, le biberon c'est pratique, ouais, ce qui est un point de vue. Et du coup il y avait pas beaucoup de gens qui étaient dans notre entourage en tout cas portés là-dessus, déjà sur l'allaitement. On avait toujours l'impression d'être sur des choix où on n'était pas vraiment suivi. Ou alors les personnes étaient plus ah ouais, ok, d'accord. Les couches lavables, on a choisi de faire des couches lavables, tu vois, un autre exemple comme ça un peu qui contraint un peu plus logistiquement et qui peut être un choix qui fait quoi.
Vous avez fait des couches lavables il y a 9 ans, c'est ça?
Ouais.
Beau gosse.
C'est un ah ouais,
très, très précurseur. Ah bah je pense qu'il y a 9 ans, c'était pas vraiment à la mode entre guillemets quoi, tu vois.
C'est en tout cas dans notre dans notre entourage, pas en tout cas à l'époque, ouais, clairement pas. Okay. Ouais. Pas beaucoup. On avait peut-être une ou deux personnes qui étaient sur le truc. Donc on a fait des choix qui étaient déjà un peu, tu vois, un peu pas. Je cherche le mot, j'arrive pas à trouver quand t'es un peu pas marginaux, voilà, c'est ça. Pas des choix marginaux, mais pas non plus complètement dans le cadre un peu habituel. T'as l'impression que t'apportes une complication. Et comme on est humain et que la complication, ça prend du temps et qu'il faut le gérer, tout le monde n'est pas forcément derrière toi à dire ouais c'est super, voilà. Enfin, en tout cas, c'est tel qu'on l'a ressenti à l'époque. Et donc excuse-moi, je digresse beaucoup. Et donc le début est difficile parce que on a cette logistique, on a l'allaitement qui se passe. Il y a une histoire de sein droit, sein gauche, il y a une feuille, là, un truc avec des horaires, je sais pas quoi. Et assez rapidement, Elliot pleure beaucoup, en fait. Il pleure beaucoup, il est pas confortable, on sent qu'il est pas confortable. Et c'est pas facile. C'est pas facile. On n'arrive pas à se trouver, quoi. Voilà. On fait notre possible. Mot de fatigue quand même mal été parce que du coup, le côté cool pour le papa, c'est que toi, t'as encore servi à rien concrètement parce que le petit va se coller au sein pendant que toi tu essaies de dormir donc t'as pas à te relever tout ça et ça marche pas en fait Maud va l'allaiter très longtemps, Elliot, ça va bien marcher en fait hein, sur la durée elle va l'allaiter je sais plus mais jusqu'à 2-3 ans assez longtemps mais on se trouve pas quoi, c'est ça. Ah, c'est pas fluide. Voilà, c'est ça. C'est pas fluide. On sent que ça manque de fluidité.
C'est pas fluide entre Elliot et vous, ou c'est pas fluide aussi entre Maud et toi?
C'est pas fluide, je dirais, entre Elliot et nous, et du coup, par répercussion entre nous. Encore que pas tant que ça. On échange beaucoup quand même là-dessus, mais du coup, c'est un peu stérile. Tu sais, c'est un peu les questions. Ah, il pleure, mais je sais pas si c'est parce qu'il a pas manger, ou alors si c'est parce qu'il a des coliques, et du coup, si c'est qu'il a des coliques et que tu le fais manger, en fait, c'est peut-être parce qu'il a besoin, ou peut-être ça va le calmer, ou pas, tu sais, t'es dans cette espèce de question où tu sais pas trop, tu fais de ton possible, et peut-être qu'il a un sommeil, t'es qui, la fameuse phrase, il trouve pas son sommeil, ce genre de truc, enfin, t'as toujours tout et son contraire. Et du coup, je vais avancer un peu plus loin parce que je pourrais te donner encore plein de...
Vas-y.
En fait, on se fatigue, on s'épuise. En fait, grosso modo, on s'épuise. Maud est trois mois à la maison. Après, elle reprend le travail et moi, je reprends le boulot aussi. Je trouve un boulot à peu près en même temps et je trouve un boulot que je connais pas. Dans lequel il va falloir que je fasse mes preuves en plus. Donc un truc qui est pas forcément hyper simple. Et dans ce laps de temps-là, en fait, ça s'arrange pas. Et Elliot pleure beaucoup, c'est très fatigant. Il va nous faire un mois où il dort à peu près la nuit. Je crois que dans la foulée, ça repart. Et quand je dis il dort pas beaucoup, il pleure vraiment beaucoup. Et il dort plutôt la journée, en fait, il se repose la journée. Et nos nuits sont complètement... défoncées quoi, elles sont morcelées au possible, on a très peu de sommeil. Et il y a une phrase qui me vient là, mais très honnêtement, si moi mes enfants ont fait sortir le pire de moi comme le meilleur, pour être franc. J'aurais bien voulu que ça sorte pas le pire, mais ça a aussi sorti le meilleur. Voilà, c'est dans la balance. Et je le sors un peu comme un truc blanc et noir, mais c'est pas ça en fait. Il y a tout un tas de teintes. C'est dense. En enfant, c'est dense. Ouais, je crois que ça c'est un bon mot pour qualifier les enfants. Il y a une densité de l'enfant dans l'espace, dans le sonore. Une densité sonore de l'enfant, une densité de l'espace, une densité de tout quoi. De remise en question. Ouais, c'est chouette.
Ça se concrétise comment le pire?
Alors ouais, je vais y venir. Donc on s'épuise. En fait, on est en train de s'épuiser. Moi, je reprends le boulot. C'est compliqué parce que du coup, je dors pas quoi. Je dors pas, même si Modalette, je dors pas bien. À l'époque, on le porte en écharpe, et en fait, j'ai le souvenir, on faisait des allers-retours dans les escaliers. Marcher ne suffisait pas à notre très cher Elliot, il fallait faire des allers-retours dans l'escalier. Donc j'ai pu maintenir mes cuisses en bon état pendant cette période-là. Et en fait, il n'y a que l'écharpe qui le calmait. Il avait besoin d'être pas en peau à peau, mais vraiment contre nous, quoi. Quand il était blotti dans l'écharpe, il était bien, il s'endormait sur nous. Sauf que bah, il y a un moment, dormir avec une écharpe, c'est juste quasiment impossible. Et quand tu le posais, il se réveillait, quoi. Enfin, on a fait cododo, pas cododo. On a essayé des trucs. On a essayé d'être constant aussi dans nos choix. Parce qu'il y a un moment, changer sans arrêt de fusil d'épaule, je pense pas que ça puisse aider le petit à intégrer une sorte de routine. Mais on était paumés, nos parents voyaient bien qu'on était paumés, que c'était difficile pour eux, c'était difficile pour nous de le voir dans leur regard. C'était difficile aussi pour les copains, tu vois, quand tu as t'as quand même envie de sortir, mais quand on avait des amis qui avaient à peu près un enfant en même temps et qui faisaient ses nuits, et en fait voilà, tu manges ensemble et tu te relèves 20 fois et tu profites ni toi ni l'autre de la soirée, parce que chacun de ton tour tu te relèves en fonction de qui est dans la discussion pour arriver à gérer le truc. Bref, c'est dur moralement, c'est dur socialement, et en fait moi je commence à perdre un peu le truc, quoi. Je commence en fait à crier. En gros, ah putain, ça va être dur. Ah, ça va être dur, je suis désolé. J'aimerais que ça soit plus fluide, mais ouais, je vais avoir des... Ça va,
mais enfin, arrête de t'excuser déjà, t'es chiant.
Oui, c'est vrai, merci de me le dire.
Et puis, les trucs, on est
ouais,
pas...
Ouais, je vais les dire, ouais.
Tu m'as dit que t'étais un daron de base, hein, tu vois. Alors, si je peux me permettre, tout ce que tu me dis depuis le départ, c'est très très loin du daron de base, ok.
Ok.
Vraiment.
Ouais. Je me suis entraîné en fait à en parler avant parce que j'avais envie que ça soit plus fluide et j'ai pas envie de. C'est pas une question de rapport à moi. Je suis à l'aise, je peux pleurer, je m'en fous. Mais quand tu pleures et que t'as les sanglots, c'est difficile de continuer une conversation. C'est pour ça que j'aimerais arriver. Bref. Donc ça commence en fait, je le pose dans son lit et je sais qu'il va pleurer et il pleure et je ferme la porte et il pleure et à l'intérieur, mon monde s'effondre. Mon monde, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus rien à me raccrocher, j'arrive pas à faire dormir mon fils. J'arrive pas à être là pour lui. Il pleure. J'arrive même pas à continuer à avoir la force pour pouvoir. Ouh là là.
Ah. Tu t'en veux?
J'arrive. Ouais, mais pour ce qui m'amène par la suite, en fait. Ah, punaise. Je m'en veux parce que j'ai pas la ressource pour être là pour lui. Il y en a qui disent faut laisser pleurer les enfants. Moi ça me parle pas avec Maud à l'époque. Et on se dit ok, faut que, enfin voilà, il a besoin de nous, c'est tout. Quoi. Et Maud fatigue aussi parce que elle allait beaucoup. Enfin c'est fatigant. On est truc rigolo, on est aussi en format allaitement et on a repris le boulot. Donc elle se tire le lait le matin. Ça me permet de redescendre un peu ça. Elle se tire le lait le matin, donc tu vois ta femme le matin quand tu déjeunes avec les seins dans le tire-lait. C'est très romantique. C'est tellement romantique. Et donc en fait, on congèle les sachets. Tu sais, t'as des sachets de congélation pour les glaçons. Du coup, on congèle le lait dans ces trucs-là. Et du coup, quand elle est pas là, parce qu'elle fonctionne en garde, donc il y a des nuits, des soirées entières où je suis tout seul en fait avec mon enfant, des week-ends quasiment aussi. Et donc du coup, j'ai ce lait que je décongèle pour lui donner. Bref. Aparté. Je retourne dans ce que j'étais. Donc ouais, c'est dur pour moi parce que j'ai pas la ressource pour. J'y arrive plus, quoi. J'ai plus la force, j'ai plus la ressource. Il pleure et j'ai juste envie de calme, quoi. J'ai juste envie de pouvoir dormir. J'ai juste envie de pouvoir dormir. C'est bête, mais c'est ça, quoi. J'ai besoin de repos. Pas systématiquement, mais je commence à, ouais, quand je ferme la porte doucement, mais derrière je hurle, quoi. Je pousse des cris, mais j'ai besoin de me libérer de quelque chose, d'un poids, et ça passe par le cri. Et au bout d'un moment, en fait, le cri suffit pas, je commence à faire des trous dans les murs de la maison, qui étaient déjà suffisamment en mauvais état, il n'y a pas besoin de rajouter ça. Je commence à taper dans les murs, en fait, parce que je me sens, je suis en colère après moi. Je suis en colère après lui aussi. J'ai de la colère après lui, je culpabilise d'avoir de la colère après lui. Ça aussi, le poids de cette culpabilité-là, il est dur. Je commence à faire des trous donc dans la maison. Je commence à faire des trous à la main, au genou, à la tête. jusqu'à un moment où je me fais mal, hein, forcément.
Oui, c'est ça, j'allais dire.
Est-ce que les rails à placo, à un moment, tu peux taper dans le placo. Le placo, ça va. C'est quand tu tapes à l'endroit où il y a le rail derrière qui est un peu plus difficile à gérer et qui peut être un peu douloureux. Et donc, voilà, tout ça pour dire que bah voilà, je suis épuisé, j'en peux plus et c'est dur, quoi. Pour Maud, c'est pareil. Maud, elle enchaîne le boulot. Alors, c'est pareil. On n'a pas beaucoup échangé, même après coup, là-dessus, parce que c'est des périodes qui ont été difficiles pour nous. On ressent ce que l'autre a vécu de chaque côté. On n'a pas eu forcément besoin de poser beaucoup de mots là-dessus. Mais ouais, c'est dur. C'est dur.
Même encore aujourd'hui.
Ouais, même encore aujourd'hui, ouais. Et je pense que ma démarche aussi d'écrire ce mail, c'était aussi, moi, en tout cas, j'avais besoin de revenir là-dessus, en fait. Là, ce que je te dis, c'est pas tant, ça me faisait plaisir de parler. Très honnêtement, c'est toujours agréable de parler. Ça m'a vraiment permis de prendre le temps de revenir dessus et j'avais besoin de faire du tri dans certains trucs. Et voilà, je pense que ma démarche m'a permis de faire ça.
Ouais,
c'est
cool.
C'est vraiment très très cool, ouais. Et donc, ça se poursuit un peu comme ça. Ça dure grosso modo, ça s'étale sur une année, ça. Cette espèce de fatigue où t'as des pics, hein, c'est pas tout le temps, je m'amuse à faire des trous dans la maison, hein, mais y a des moments de craquage comme ça où vraiment t'en peux plus. Bon an, mal an, on arrive à récupérer 2-3 heures de sommeil par-ci, par-là, et voilà, on arrive à maintenir... On dort énormément la journée, ou le week-end, ou enfin voilà, quand on peut dormir, on dort. Et voilà, donc ouais, c'est dur. Et ça s'étale sur assez long, ça s'étale sur... je dirais quasiment un an, quoi. Et en fait, donc Elliot grandit, et donc on a cette espèce de malaise viscéral quand on l'entend pleurer. En gros, c'est bête, mais du coup, quand il pleure, moi dans mes tripes à ce moment-là, j'associe ça à de la colère. J'ai la colère qui monte direct. Peut-être pas de la colère ou de l'oppression où je me sens oppressé, quoi. Ça me noue le bide. Je l'entends pleurer, j'ai 18 nœuds qui se font dans mes tripes, quoi. Mmh. Et ça fait pas beaucoup d'ailleurs 18 nœuds parce que l'intestin est vachement long, je crois. Mais bon, on a l'idée. Et du coup, ça c'est pénible parce que je le réalise pas sur ce moment-là. Je le réalise, je le comprends il y a 4-5 ans. Mais sur le moment, je réalise pas que je suis dans cet automatisme. Il pleure, ça me vrille le bide et j'ai la tension dans le corps, quoi. Mais vraiment. Elliot grandit. Après, il va bien, il est chouette. On est dans une éducation, on laisse beaucoup faire les choses. On a une maison avec des escaliers de meunier, on laisse beaucoup faire sa vie tout seul. On effraie beaucoup de gens, visiblement, alors que ça se passe très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, il est hyper à l'aise physiquement, alors qu'il est très très grand. Et je sais pas si c'est lié à ça, mais voilà. En tout cas, on l'a laissé faire sa vie. Ça a plutôt été cool. Mais on a quand même des réactions un peu merdiques des fois quand il fait pas ce qu'on veut, des coups de sang, se retourner un peu ou le dans la voix, ne serait-ce que dans la voix, tu vois, des rappels à l'ordre un peu abrupts, des trucs voilà qui nous plaisent pas viscéralement parce que c'est pas l'image qu'on se fait de bons parents en fait, déjà tout simplement. Moi j'ai pas été éduqué dans la violence du tout. Voilà, pour moi, la violence... Alors, la violence, quand je dis la violence, je pense au verbal comme au physique, en fait. Pour moi, c'est pas sain. Je trouve, c'est mes critères, mais je trouve pas ça très sain.
Et tu crois que c'était des répercussions de cette année compliquée, quoi? C'est-à-dire que vous aviez toujours une paire de boules contre lui, quoi? Au fond.
Ah, j'ai pas compris. Je suis pas sûr d'avoir compris ta question.
Je disais, est-ce que vous avez, avec le recul, t'as la sensation que c'est cette colère là que vous pouviez avoir un peu gratuite, comme t'as l'air de le dire, ouais. Elle venait justement de cette première année compliquée avec lui.
Ouais. Je pense. Elle est pas forcément.
Consciente, c'est ça.
Là où je veux en venir, c'est que je pense que il y a un truc pourri qui s'installe comme je me mets en colère, c'est pas bien pour moi, je m'en veux, je lui en veux de me mettre en colère. Et je m'en veux de lui en vouloir. T'as tout cette espèce d'empilement à deux balles qui se rajoute et qui est, où tu te dévalorises en fait et où Il faut pas grand chose, tu sais, entre le cercle vicieux et le cercle vertueux, il faut pas grand chose pour basculer de l'un à l'autre. Mmh. Mais quand t'es dans, quand t'as les œillères, c'est très difficile de respirer. Comment on appelle ça là, le fameux pas de côté là, de voilà, de regarder un peu de biais, de te dire, hey, quand je regarde comme ça et quand j'essaie comme ça, ça marche mieux. On l'installe par des je me souviens un truc, par exemple, Yacht un jour est attiré par les prises. Il veut foutre ses doigts dans les prises. Comme je suis comme je suis pas forcément, comme on a pu voir, forcément toujours hyper zen, hyper tendre, malgré tout, j'aime beaucoup mon enfant. Donc j'évite qu'il mette ses doigts dans les prises. Et j'avais lu un truc, je me suis pas beaucoup documenté pendant la grossesse, mais je commence à lire en fait, et je réalise déjà que les enfants n'ont pas notre cerveau. C'est un truc tout bête, mais Maud m'avait dit une fois, et ça m'a beaucoup fait rire, elle dit, il comprend pas ce que tu lui dis. Ton fils n'a même pas le cerveau d'un labrador là actuellement. Et c'est bête. Oui, c'est, alors c'était pas très cool pour l'enfant à l'époque. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité en fait. Il n'est pas câblé pour pouvoir percevoir ce que toi, tout ce que toi tu projettes, il n'est pas câblé pour le percevoir. Et ça m'aide vachement. Ça m'aide déjà vachement à trouver des petites pistes, des petits biais ou à comprendre. Donc il met ses doigts dans la prise et en fait, j'avais lu que un enfant quand tu lui dis non, il met ses doigts dans la prise, tu lui dis non, mais pas tes doigts dans la prise, l'enfant a tendance à recommencer. Et en fait, en faisant cette lecture-là, je découvre qu'il le fait pas pour te défier, ce qui est con, il le fait pas pour te défier, il le fait parce que il veut comprendre que c'est bien ce geste qui provoque ton non, ou ton stop, ou peu importe le terme que t'as choisi. Et du coup, je me souviens nettement de ce jour-là, où, peut-être petit pas de côté, où je dis, oui, t'as compris, c'est ça que je ne veux pas que tu fasses. Je veux que tu gardes tes loin de la prise. Je sais plus comment j'ai tourné ça, mais j'essaie de tourner ça de façon un peu plus positive et pas négative. D'ailleurs, il y a une phrase aussi que j'ai appris récemment par un ami et que je trouve très jolie, c'est « l'univers n'entend pas le pas ». L'univers n'entend pas la négation. Si je te dis « ne pense pas à une girafe », il y a de grandes chances que dans ta tête, tu penses à une girafe. Et moi, pareil, je viens de penser à une girafe. Bref. Oh, désolé pour la digression.
Ben non, mais arrête de.
Ah oui, oh, ah, c'est pénible.
Ça suffit, ouais. Elles sont trop intéressantes, tes digressions. J'avais deux trucs à dire.
Ouais.
La première, c'est que je trouve que c'est très précieux ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de libérer la parole sur le fait que, en fait, en tant que parent, avoir un enfant qui te hurle dessus, alors pas dessus sur toi, mais en tout cas qui pleure énormément pendant un an, qui te flingue le sommeil, etc., c'est dur. Et qu'en fait. Ouais. Ça ne fait pas de toi un mauvais parent d'avoir envie de péter un câble parce que ton enfant te prive de sommeil, ou en tout cas le fait, la relation que vous avez te prive de sommeil. Je t'invite, et j'invite aussi les auditeurs et les auditrices qui écoutent à écouter ou à réécouter l'épisode avec Patrick Béja, qui raconte ce qui a été, je pense, l'un de mes tout premiers darons à parler justement de cette première année très compliquée et de venir dire qu'en fait il détestait son enfant pendant cette période-là, parce que, et notamment parce qu'il avait un cri, il avait des pleurs hyper stridents et qui finissaient par lui taper sur le système. Peut-être que ça te parle sans doute, mais dès qu'en fait il se mettait à pleurer, ça venait lui déclencher un truc dans le cerveau où il avait des envies de violence, en fait, tu vois, parce que forcément c'est le cerveau, il est un peu con, quoi, tu vois, tu finis par associer aussi des bruits et des situations à des trucs qui te, bah, on est des animaux, quoi, tu vois, l'air de rien, on est des animaux. Et le deuxième truc que je voulais savoir, alors là c'est plutôt une question pour toi, c'est comment t'as fait pour réussir à sortir de ce cercle vicieux là, ou comment vous avez fait tous les deux? Je pense aux jeunes parents qui sont dans ta situation, tu sais, et qui peut-être aimeraient bien avoir quelques conseils.
Alors, le premier truc qui me vient à l'esprit, je ne pense pas que ça soit la bonne réponse. On a fait un deuxième enfant. Non. On a fait un deuxième enfant. Ne le faites pas. Si vous êtes dans cette situation, ne faites pas ça. Je dis ça parce qu'on a eu un enfant assez rapidement derrière. Mais non. Quand on a eu un deuxième enfant, quand on a eu Bilal, les choses étaient déjà tassées avec Elliot. On avait déjà commencé. C'est ce qui m'est venu à l'esprit, mais. C'est pas évident ta question. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense déjà, moi, j'ai quitté mon deuxième boulot. Alors, c'est bête, hein, je ramène ça beaucoup à ça, mais ça m'a, je le vois par ce prisme-là. Mon deuxième, enfin, j'ai quitté mon deuxième boulot, non, ils m'ont viré pour être exact. Le boulot dans lequel j'étais était en gros un boulot commercial. Le commercial me parlait pas et voilà, j'avais un gamin qui dormait pas la nuit, donc moi je dormais pas la nuit et le lendemain c'était ça va? Ça va, il a pas très bien dormi. Je suis fatigué. Mais tu dis pas, ben non, ça va pas, j'ai pété les plombs, j'en peux plus, est-ce que tu pourrais me le prendre? Parce que là, tu vois, j'ai besoin d'une respiration. Non. Donc du coup, tu t'inscris dans cette espèce de normalité qui est aussi violente à vivre. Et puis j'avais des collègues où c'était pas... Pareil, je sais pas... J'ai pas trouvé de pas d'alter ego, mais de personnes avec qui vraiment pouvoir échanger. Il n'y avait pas de jeunes parents déjà, tout bêtement en fait. Donc j'avais pas vraiment de personnes avec qui échanger là-dessus. Et nos amis, la plupart n'avaient pas encore d'enfants, et ceux auxquels je pense qu'il y en avait un, tout se passait nickel. Donc du coup, t'as pas hyper envie d'en parler avec eux, pour être honnête. Je vous adore. Si jamais vous écoutez ça un jour, sachez que je vous adore et vous avez été une aide hyper précieuse. Franchement, si vous avez des amis qui galèrent avec leurs gamins, le fait de les inviter quand même à bouffer, s'ils sont prêts à venir, c'est qu'ils se sentent de venir, d'être bienveillant, d'être cool avec ça, franchement, c'est chouette. C'est hyper chouette. Ouais, c'est cool. Donc, qu'est-ce qui nous a permis de faire des pas de côté? Je pense le travail, j'ai quitté ce boulot-là. Bizarrement, Elliot a bizarrement ou pas, je sais pas, mais Elliot a commencé à être un peu plus confortable et à mieux dormir quand j'ai quitté donc ce boulot que j'avais pris. Il est fort possible que je ramenais aussi mon stress du boulot, hein. Fort possible, même évident, j'ai envie de dire, parce qu'il y a jamais de pont. Enfin, si, il y a que des ponts en fait. La vie, c'est ça, c'est que des liens, c'est un réseau internet. Hein, tu mets pas de cloison, c'est une connerie ça. Quand tu dis je mets une cloison, en fait, c'est en train de déborder par un autre endroit, tu le vois pas, mais c'est en train de déborder d'une manière ou d'une autre. Et donc ça m'a aidé. Deuxième fois, donc je me suis fait licencier. En fait, c'était une bonne chose. Et j'avais projeté en plus de rénover la maison parce qu'on venait de passer l'hiver 2012 où il avait fait moins 27 dehors. Et on avait donc les chauffages électriques à fond, le four ouvert à fond, le chauffage de salle de bain à fond. On avait 13 degrés dans la maison et je me suis dit, ouais, là, printemps, je pète tout et on recommence. Et donc du coup, c'était une bonne chose et je me suis retrouvé au chômage. Et en fait, là, j'ai pas culpabilisé du chômage parce que je me suis dit, attends, j'avais prévu ça en amont, de la merde. Je vais pas mettre en vrac mes projets où j'avais prévu de rénover sous prétexte que je suis au chômage. Je l'aurais fait de toute façon, même avec le boulot. Donc voilà. Donc j'ai rénové. J'étais plus à la maison. Donc peut-être que j'avais un rythme peut-être plus cool aussi parce que je faisais des gros horaires. Je faisais des journées. Je faisais des journées de... j'étais absent de la maison une dizaine d'heures, 10 à 11 heures. Donc, même mine de rien pour Elliot, il passait beaucoup de temps chez la nounou aussi. On avait une nounou extra, vraiment géniale, et qui était notre voisine, donc très pratique en plus. Mais voilà, malgré tout, il était beaucoup avec la nounou, avec moi ou avec Maud, et peu finalement, on était peu tous les trois. À partir du moment où j'étais un peu plus là, on a peut-être eu aussi... plus de moments tous les trois, il y avait peut-être moins ce jeu de relais, tiens, je te passe l'enfant, je pars au boulot, tu vois, ce genre de truc aussi qui est pas fou pour un enfant. Ça aussi, ça sera encore plus marquant plus tard, mais quand par la suite je vais avoir un job à 50%, et oh, mais alors laisse tomber la différence. Ça a été au départ un peu, tu dis, 50%, ouais, je vais diviser mon salaire par deux, ça va être compliqué, tout ça. Mais ça nous a apporté tellement, moi, ça m'a apporté tellement perso, ça a apporté tellement au niveau du couple, de la famille, de tout un tas de choses. C'était très, voilà. Donc le temps, tout ça pour dire le temps que tu consacres à ton enfant est important.
Ok.
Je sais plus où je voulais en venir.
Non, mais c'était très bien. C'était...
Et je me suis pas excusé, t'as vu?
Bravo, toutes mes
félicitations. Classe. Grande et classe.
Tu disais que vous aviez fait un deuxième enfant donc dans la foulée, c'est ça?
Ouais, dans la foulée, pas vraiment, ils ont 2 ans d'écart en fait.
Il est haut. Déjà, il faut 9
mois. Oui, c'est vrai qu'il y a les 9 mois, ouais, c'est vrai. T'as vu que les maths, c'était pas forcément hyper mon truc. J'étais bon quand même dans la maçonnerie, hein. N'ayez pas peur, tout va bien. Je compte correctement. Oui, c'est vrai. Oui, ça a été
2 ans, c'est plutôt rapide, quoi.
En fait, le point, ça a été, ok, ça commence à se tasser avec Elliot. Il y a un truc quand même sur lequel je vais revenir parce que je pense que c'est aussi important. Mais ok, ça se passe avec Elliot, c'est plutôt cool. Ça commence à prendre une belle voix. Et du coup, si on doit remorfler pareil, est-ce qu'on est prêt à attendre longtemps pour remorfler ou est-ce qu'on veut enchaîner tant qu'on est chaud? Enfin, tant qu'on est chaud. Tant qu'on est à peu près reposé, mais que c'est pas trop loin derrière. Voilà, il y avait un peu de ça. Et puis, il y avait aussi beaucoup de... On avait vraiment cette envie d'avoir deux enfants qui soient assez rapprochés pour qu'ils puissent être complices, qu'ils puissent jouer ensemble. Il y avait aussi cette idée-là, quoi, qui était très... très présente. C'était même d'ailleurs, je pense, un peu le motif principal. On se voyait pas avec un seul enfant. Et donc voilà, ça nous paraissait chouette.
Le cerveau est bien fait aussi, c'est qu'il a tendance à oublier les moments de merde au bout d'un moment, tu vois.
Oui, alors ton cerveau qui cogite, mais ton cerveau de derrière, lui, tous tes petits traumas, il te les ressort un peu en loose day en général. Si ton cerveau de devant, il n'a pas capté ce qui se passe derrière, enfin voilà, tu n'arrives pas forcément à composer au mieux avec, quoi. Enfin, c'est comme ça que l'image, tu vois, bon, voilà, t'as l'idée. Ouais. Et du coup, quand même, cette question a été chouette. Comment tu fais un pas de côté Je pense la lecture, on avait des amis aussi qui ont vécu, je pense, la même. Ils avaient des enfants déjà plus âgés, ils étaient plus loin, mais qui ont vécu, je pense, à peu près la même chose. Tu vois, c'est pareil, quand tu parles de la souffrance que tu as avec ton enfant, tu vois dans les yeux des gens ceux à qui ça ne parle pas, tu vois dans les yeux des gens ceux à qui ça parle, mais ça fait trop mal. Et donc tu sais, c'est un sujet qui est hyper difficile à aborder, quoi. Ça se sent tout de suite, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Et donc côtoyer ces personnes-là a aidé pas mal ces amis-là. Côtoyer ces amis-là, des amis d'ailleurs hein, qui me sont chers, ça a aidé de les voir, leur façon de se comporter, de se poser des questions, les voir faire en fait. Et ça c'est pareil, il n'y a rien de mieux que l'exemple. On peut dire ce que tu veux, on peut dire fais ci, fais ça. Rien ne vaut un exemple. Si tu vois pas une personne faire et se sentir bien à le faire, voilà, ça donne pas envie, quoi. Si je te dis, j'ai pas donné d'exemple, on a compris l'idée. La lecture un peu, mais je lis pas. Si, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup d'articles. Je lisais beaucoup de blogs, trucs comme ça. Peu sur la paternité, parce que quand je le vivais mal, ce que je lisais, c'était surtout sur des sujets de gens pour qui ça se passe bien ou qui s'émerveillent de certains trucs. Et moi, j'étais tellement pas bien avec moi-même que j'étais pas apte à recevoir ça, en fait. Ça me mettait tellement en. Mais un peu les lectures, plus les lectures un peu techniques sur comment fonctionne le cerveau de l'enfant, en fait, qui permet de se mettre au niveau de ton enfant, parce que il est pas câblé comme toi. Et même moi, en fait, suffit de faire un effort de mémoire. Mes premiers souvenirs, même de tu vois, de primaire, mais il y a plein de choses que je captais pas. Il y a des choses que je capte aujourd'hui. Il y a des moments où je posais des questions très naïves d'enfant, où j'ai ressenti des tensions par rapport à ces questions-là. Et sur le moment, tu comprends pas. Et plus tard, avec le temps, quand les langues se délient, quand on t'explique le pourquoi du comment, ou qu'on t'explique pas vraiment parce qu'il y a toujours des tabous à la con, mais bon, tu sais sur quoi t'as foutu le doigt en étant un gamin, en étant très naïf, voilà. Moi, mes enfants aujourd'hui me posent des questions. Oh là là, au secours. C'est génial, ça va. Oh, j'ai un fils, Bilal. Ou je sais pas pourquoi j'ai un fils. J'en ai que deux. Bilal a l'art de me poser des questions, mais au coucher. Tu sais, au moment où tu fatigues un peu, t'as juste envie d'expédier un peu le truc. Allez, bisous. Ouais, ok. Tu veux un bisou? Ouais, d'accord. Ok. Allez, machin. Vas-y, dors. Papa. Ouais. J'ai peur de rien être. Quoi? J'ai peur de rien être. Mais tu veux dire quoi? Par rapport à tes copains? Non, non, non. Après la mort, j'ai peur de rien être. Oh la vache! Et là, dans ton cerveau, tu te fais, t'as les warnings dans tous les côtés, t'as les loupiottes rouges qui tournent, tu sais. Et tu fais, par quel bout je prends le truc? Comment je le rassure? Il va s'endormir. Ce que tu vas lui dire va peut-être l'aider ou pas à dormir. Oh là 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 là, au secours! Et c'est génial, franchement c'est génial, et en même temps c'est ça met le doigt toujours sur des trucs tu vois qui te touchent toi forcément d'une manière ou d'une autre, et aussi des trucs sur lesquels tu t'as pas forcément vraiment développé parce que t'as peut-être peur de développer ça ou parce que ça te soucie pas et que tu l'as pas à l'esprit, voilà, des trucs comme ça, quoi. J'ai dérivé.
Non, mais c'était très intéressant.
Je voulais parler un peu de
justement de ta de la deuxième grossesse parce que on va finir par plus trop avoir de temps. Tu sais, j'essaie de faire en sorte que les épisodes soient pas trop denses. Et en fait, on a parlé de plein de choses. Et mais non, t'excuses pas encore une fois.
C'est vrai, c'est pénible.
C'est moi qui te lance en fait. Mais j'aimerais bien ne pas occulter toute la deuxième grossesse et ta deuxième paternité aussi. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers justement par rapport à cette deuxième grossesse et par rapport à l'arrivée de Bilal qui t'ont marqué, toi?
La grossesse de Bilal a été très très cool. Avec Elliot, ça allait mieux. Ah, j'ai à la fois envie de revenir sur un truc et en même temps je me dis que du coup c'est peut-être pas adéquat. La grossesse se passe bien. Celle de Bilal est franchement hyper cool par rapport à celle d'Eliott. Je sais pas si ça a une incidence sur le caractère des enfants. Néanmoins, le fœtus se forme pendant la grossesse. J'imagine bien que c'est un peu perméable aux sentiments, aux émotions, à tout un tas de choses comme ça, et que ça peut constituer éventuellement une partie de l'esprit de l'enfant. En tout cas, la grossesse se passe super bien. Elle se passe. Moi, je suis tellement en roue libre que même à l'accouchement, dans la salle d'accouchement, je suis en train de lire un bouquin. Je suis aux abonnés complètement absents. Maud est en train de faire ces trucs où, elle peine. En plus, elle a perdu les os. Très tard, je crois. Elle a perdu les os. Ils ont percé la poche des os, d'ailleurs, pour Bilal. Donc, la douleur, ça a été décuplé d'un coup. Si j'ai bien compris, quand t'as déjà perdu les os en amont, tu souffres moins que si on te perce la poche au moment où t'accouches. Bref, elle a douillé, mais vraiment, quand ils ont percé la poche. Mais moi, en gros, j'ai fini un bouquin, quoi. J'étais en train de lire, elle était en train de faire ses trucs. Elle me dit, mais tu m'aides pas. J'ai dit, je sers à que dalle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que lire? Je me cultive pour notre famille, chérie. J'ai pas dit ça du tout, mais j'aurais aimé d'ailleurs avoir cette... avoir cette réflexion, on m'aurait défoncé.
Il fallait pas faire un troisième, hein. Tu serais carrément pas venu à l'accouchement du troisième, quoi. Tu vois, je sais comment ça marche, ça va.
Oh l'horreur. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai envoyé un pote. Histoire qu'elle ait un pote au mobile. Ouais, donc ça s'est bien passé. Franchement, la grossesse se passe super bien. Inné, pareil, je coupe le cordon. Oh, par contre, quand je vois Bilal, je me dis, oh, mon beau-père, il a le physique de mon beau-père à la naissance. Je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Et il avait mon beau-père est très, il est costaud quoi. Il a des épaules, il est dessiné et j'ai vu ça sur un bébé. J'aurais jamais pensé pouvoir le voir. Il était musclé à la naissance. Alors peut-être que j'ai halluciné, hein, mais n'empêche que c'est comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit, oh my god, c'est bizarre quand même. Enfin, tu vois, t'as cette image de pourquoi l'image de mon beau-père à la naissance de mon second enfant. Est-ce bien nécessaire, mon cerveau? Pourrais-tu me laisser tranquille 5 minutes et me laisser vivre cet instant paisiblement avec des belles images? Non pas que mon beau-père soit moche, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire.
Compris.
J'adore.
On a compris.
Ouais, ok, d'accord, ça marche.
J'ai pas mal pris, t'inquiète.
Yep, super. Enfin, oui. Donc la deuxième grossesse se passe bien. Et en fait, Elliot, on l'a déjà préparé. Il est hyper content d'avoir un petit frère. Il veut porter le cosy au retour de l'hôpital. Il est déjà... il est content d'avoir un petit frère. Et globalement, ils sont très vite complices, en fait. Elliot est assez... attentionné. Il est assez attentionné. Alors avec son esprit d'enfant, il n'est pas capable d'être attentionné comme un adulte, mais il veille sur son frère, il joue avec. Bon, il smile pour des. Quand Bilal commence à se déplacer puis à choper des jouets, forcément, Elliot commence à comprendre que va falloir défendre un peu son territoire. Donc il y a des petits trucs. Commencer à expliquer le partage, tout ça. À gérer un peu ces questions-là. Comment tu leur apprends le partage et tout. Bilal a beaucoup posé notre famille. Et puis en parallèle, moi, je me suis retrouvé aussi dans un job où, en fait, j'ai débarqué dans un nouveau boulot. C'était un bordel complet. Il y avait tout le monde était tellement aux abonnés absents qu'en fait, il y avait une place à prendre. On m'a fait confiance. Et puis du coup, j'ai gagné en confiance à ce job-là. Et tu vois, un des trucs qui m'a aidé, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis retrouvé à un endroit où on m'a fait confiance, en fait. Et j'ai bossé, et j'ai fait du bon boulot, et j'en suis content, ils en étaient contents, et c'était cool. Et ça, pour la confiance en soi, il n'y a rien de mieux, quoi, en fait. Tout le monde, et c'est valable pour tout le monde. Putain, Je fais une digression et c'est volontaire. S'il y a un truc que mon chef à la con là, qui était hyper l'image virile, qui me parle pas du tout, que je trouve hyper débile, qui était très on est viril, on est costaud, qui disait ah c'est pas comme ça quand tu as une pioche, tapait deux coups, il se faisait mal au rein, il retournait dans son bungalow. Mais il m'a appris un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que une fois j'étais en train de faire quelque chose et il passe derrière et puis je sentais cette espèce d'air un petit peu condescendant, genre ah, je vais t'apprendre un truc. Et il me fait une réflexion justifiée. Il me dit ah je sais plus si tu fais pas gaffe à ça tu peux te faire mal ou alors c'est mal fait ou je sais pas quoi. Putain, et puis ça me prend, ça me vrille les tripes et du coup je dis putain mais ça me saoule à chaque fois que tu passes derrière moi, tu me fais une réflexion et t'as raison mais ça me saoule quoi. Ça me saoule, je sais pas te dire pourquoi mais ça me gave. Et là il fait un sourire et dit mais tu sais en fait j'ai pas de mérite. Il dit j'ai du recul. Il dit regarde, j'étais en train de faire mes petits papiers dans mon bungalow, je sors. Toi, t'as le nez dans ton machin là, t'es concentré, t'es dans la précision. Il dit, moi, je suis dans le global, j'arrive derrière, je te regarde faire, je vois le tableau général, et voilà, c'est facile pour moi. Et ça m'a vraiment fait capter certaines choses. C'est comme si tu regardes, je sais pas, tu prends une feuille de papier qui est quadrillée. Moi, je regardais, je voyais le croisement du carré 5-5, alors que lui, il voyait la page en entier. Moi, je voyais même pas que c'était une page, une feuille A4 double. Lui, il le voyait, moi pas. Ça, c'est un truc qui m'a appris et c'est valable pour tout le monde. Tout le monde est capable. C'est juste qu'ils ont pas eu l'occasion qu'on leur laisse leur chance. Tout le monde est capable. Ça, c'est clair. Si, enfin, moi, je pars du principe que si moi je le suis, il y a aucune raison que d'autres ne soient pas capables. Et ça, c'est cool. Donc, ouais, la confiance et de se trouver dans quelque chose, c'est cool.
On avance un peu dans le temps, mais aujourd'hui, ouais, comment ouais. Ça se passe?
Ça se passe bien.
Ouais.
Ouais, ouais, c'est cool.
T'as l'air.
Ouais, ça se passe bien. Alors, c'est pas parfait. Il y a toujours, il y a mille questions. Hein. Il y a on en parlait tout à l'heure, le rapport aux écrans, le rapport. Tu vois, mon pauvre, j'avais même pris des notes, tu vois. Oh là 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 là. Ouais, le rap, j'arrive pas à lire d'ailleurs ce que j'ai noté. La masculinité, tu vois. La masculinité, ma femme m'a dit, on a une responsabilité, on va élever des garçons. Et tu vois, si le féminisme c'est important pour toi, désolé, mais c'est par ce vecteur-là que ça va passer, tu vois. Aujourd'hui, ce qu'oppresse, c'est quand même les mecs, c'est pas les nanas. Et elle a carrément raison. C'est insupportable pour moi aujourd'hui l'idée, d'autant que j'aurais voulu avoir des filles parce que je suis issu d'une fratrie de garçons. Enfin, on est que des mecs dans la famille. Pour ma maman, la pauvre, qui est des garçons. Elle a pas eu beaucoup l'occasion de se retrouver. Ouais. Bon, elle a deux belles filles, c'est déjà cool. Comment t'éduques tes gamins pour casser ce truc, quoi. Pour casser cette dynamique. Donc, t'as ça, enfin, t'as tellement de questions. J'aimerais leur faire prendre de l'avance, en fait. J'ai juste envie, déjà, il y a deux choses. C'est que, ce qui m'a permis d'avancer, ce qui m'a fait vraiment mal, c'est que je ne supporte pas l'idée que mes enfants soient traités d'une façon que moi je ne supporterais pas moi-même. D'où le fait que j'ai pas très bien vécu le fait d'avoir été dur avec Elliot à une période. En fait, passer du temps avec eux, ce que mes parents ont pas eu l'occasion de faire, je vis dans un monde où il y a peut-être assez qui permet que je passe plus de temps, en tout cas avec mes enfants, et ça leur sera bénéfique au final. Et j'adore mes parents. Hein. Ils sont chouettes, quoi. Ils ont fait avec le temps qu'ils avaient, avec leur schéma à eux, ils ont fait de leur mieux. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être un peu plus avancé que eux l'étaient au même âge. C'est peut-être très prétentieux, j'en ai pas parlé avec eux de ça, mais je me suis peut-être plus posé de questions. Ouais, mais fois mon père parle. Comme il dit, je suis pas très prolixe. Ah, tu m'étonnes, mon pauvre. Mon papa, poulala. Ah là là, ouais, pour lui. Moi, puis je parle beaucoup aussi, donc c'est vrai que peut-être que je prends beaucoup de place et que je lui laisse pas assez développer. Je sais pas. En tout cas, ouais, j'ai envie de leur amener de l'avance là-dessus. J'ai discuté il y a pas très longtemps. Là, je faisais un stage et je discutais avec une gamine qui avait 17 ans. Mais j'ai eu une conversation avec elle que je ne pourrais pas avoir aujourd'hui avec beaucoup de gens. Sans que ça soit, c'est comme ça. Je dis pas que les autres gens sont pas capables de comprendre, c'est juste qu'ils ont peut-être pas eu le temps de réfléchir à certaines choses, donc sur certains sujets, on n'a pas les mêmes repères pour pouvoir échanger. Et cette fille, mais même en fait, tu vois, ce sujet de conversation que j'ai tenu avec elle, je ne l'aurais pas tenu avec mon moi d'il y a 5 ans. elle avait une avance et elle a une éducation dans une école, je sais pas, sûrement un mix Steiner, Montessori, un truc comme ça, pas en France, mais une ouverture d'esprit, un questionnement. On a parlé justement, je disais, bah tiens, est-ce que tu dois avec des enfants? Mais elle m'a fait une réponse, mon pauvre, mais oh, je m'étais dit, mais waouh, mais si j'avais été à ce degré de réflexion au moment où Maud m'a dit, je veux un enfant, mais en fait, j'étais carrément prêt, quoi. J'étais carrément prêt. Donc ouais, j'aimerais pouvoir bah tiens, j'aimerais bien pouvoir qu'ils aient cette capacité comme cette nana là quoi, de tu vois, de d'un peu de recul sur eux-mêmes et sur un peu le monde et les réels mécanismes du fonctionnement du monde, pas juste l'idée qu'on s'en fait en fait. J'aimerais bien ça.
Tu sais que t'es en train de spoiler ma dernière question habituelle. Si t'as un peu
écouté. Ah, je m'en rappelle plus. Oui, t'as une dernière question. Attends. Non, c'est quoi ta dernière question?
Bah, je pense en plus, mais c'est marrant parce que je pense qu'intuitivement t'es rentré dans cette réflexion-là, mais en fait ma dernière question que je pose à tous les darons, c'est et si demain tes deux fistons y tombent sur ce podcast-là, dans 10 ans,
ah.
10 ans pardon, si dans 10 ans tes deux fistons y tombent sur ce podcast, qu'est-ce que t'aurais envie de leur dire là aujourd'hui?
Oh bah j'ai fait de mon mieux hein, les gars. Franchement, j'ai fait de mon mieux, ça, c'est pas parfait. De toute façon, le parfait, c'est chacun a son propre parfait. Donc, le vôtre sera pas le mien n'est pas celui de mon voisin d'à côté, etc., etc. J'ai franchement fait de mon mieux. Je vous aime, mais tellement. Je vous aime. Ah, une question que je m'étais posée à l'époque. Est-ce que je me demandais si mon papa m'aimait autant que mon frère? Et il m'avait répondu un truc du genre, je vous aime pas pareil. Enfin, un truc en creux. Et, c'est mon, ou ma mère, je sais plus. Bref. Et, je vous aime pas pareil, je vous aime avec la même intensité. Vous êtes différents, je peux pas vous aimer pareil. Enfin, vous avez chacun des trucs qui sont géniaux, vous êtes... ouais, je vous aime avec la même intensité. Aujourd'hui, je suis hyper fier de vous. J'essaie de vous le dire au quotidien et j'espère que vous le ressentez en tout cas, que ça vous donne confiance en vous. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que dans 10 ans, vous ayez plus de confiance en vous que moi, je n'en avais. Au même âge, ça serait vraiment vraiment chouette. J'aimerais bien vraiment ça quoi. Vous avez que vous ayez cette confiance en votre capacité à vous adapter et à trouver votre chemin quoi. Ça serait cool. Et j'ai aussi si jamais je vous les ai pas filés, j'ai deux petits carnets qui sont dans le placard de ma chambre. Il y en a un chacun. Et puis voilà, vous les lirez si ça vous fait plaisir. Voilà.
Que tu leur as écrit, c'est ça?
Ouais. Okay. Oh, bah tiens, une des méthodes, oui, ça me traverse comme ça. Bah peut-être une des méthodes aussi pour sortir de cette espèce de cercle pas cool dans lequel j'étais. J'ai commencé à écrire en fait tous les chouettes moments, tous les trucs qui m'émerveillaient sur mes enfants, parce que il n'y a pas de raison que je laisse mon cerveau se concentrer sur ce qui va pas. Il y a plein de trucs qui vont bien, et j'ai fait plein de trucs géniaux pour mes enfants. Et je m'accorde pas assez de douceur des fois sur le regard que j'ai sur moi-même. Et voilà, et je le mérite en fait. Je le mérite. J'ai le droit à un peu de douceur avec moi. Comment dire, c'est pas vraiment pardonner, c'est peut-être très judéo-chrétien comme concept, mais
bon,
accepter quoi.
On est ancré là-dedans, de toute façon, dans cette éducation judéo-chrétienne. Donc, il faut faire avec. Hein, de toute façon, ça sert à rien de trop la repousser. Je pense qu'il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on est baigné là-dedans depuis des millénaires maintenant et que bah, la culpabilité, ça va avec, quoi.
ouais, c'est vrai. Mais c'est pourri. Franchement, c'est pourri.
C'est
je suis un
peu
très
niqué,
bon exemple. Ouais. Ouais, c'est... Ah, mais c'est complètement débile comme concept. Ouais.
Et ça fait, mais en même temps, ça fait l'homme que t'es aussi, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et en fait, je voulais te remercier parce qu'on arrive là au bout. Je voulais te remercier pour ce partage. Je pense que c'est hyper précieux tout ce que t'as dit, vraiment, du début à la fin. Et je me permets de te le dire parce que j'en suis à mon 60e épisode d'Histoire de Daron, tu vois.
Wow.
Et en fait, c'est j'ai eu hein, des pères qui ont raconté tout ça, mais en fait. Je pense que ça fait partie de la libération de la parole justement autour de la paternité et ça fait et en fait toutes tes prises de tête, tous tes paires de boules, tes émotions que t'as
du mal à,
que t'as eu du mal à
gérer.
Mais En fait, le problème, c'est que les darons, ils n'en parlent pas assez. Et en fait, ce podcast ne pourrait pas exister si des mecs comme toi ne décidaient pas de m'envoyer un mail intitulé « Daron de base » et puis après qu'ils lui parlaient pendant une heure et demie de trucs hyper profonds, si tu veux. Je te l'ai dit, mais je te le redis, pour moi, tu es tout sauf un daron de base, hein, vraiment.
Je sais pas. C'est difficile, je suis ce que je suis, quoi.
Bah ouais.
Et ton podcast, merci. Enfin, ça permet de mettre. Ah putain, merci, quoi. Franchement, c'est. Ouais, non, mais vraiment, c'est. C'est vraiment. Je trouve que ça permet de mettre en lien des personnes qui sont prêtes à en parler, en tout cas, et avec qui j'aimerais pouvoir en parler au quotidien, mais bah voilà, peut-être que ces personnes, je les ai pas remarquées, ou j'ai pas fait gaffe, ou pour l'instant j'ai le sentiment de pas être beaucoup entouré de personnes qui ont une vision un peu plus ouverte sur la paternalité, la masculinité, qui sont un peu liées. En général, je pensais surtout un manque de temps consacré à pouvoir y réfléchir, voilà.
Mais c'est des sujets qui sont compliqués à affronter, tu vois. C'est des sujets qui t'incitent à te déconstruire de toutes les conneries qu'on t'a mis dans la tête depuis des années et des années. Et ça, c'est vraiment pas un chemin qui est facile à faire. Bravo de l'avoir arpenté, ce chemin.
Oui, j'arpente. C'est cool.
Merci beaucoup, Emmanuel, en tout cas. C'est cool.
Bah, de rien. C'était vraiment avec plaisir. Merci de m'avoir écouté.
À une prochaine. Salut.
Ciao. Ciao, ciao.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.